l'Afrique. C'est le continent oublié par excellence. En dehors de l'époque contemporaine, l'histoire de l'Afrique est largement méconnue, voire ignorée. Tentons de combler quelques lacunes et de nous familiariser avec des civilisations élaborées, que ce soit des cités-États rayonnant sur de larges espaces ou de véritables empires. Héritiers de l'Égypte pharaonique, des souverains noirs reprennent les rites et les fastes entourant la personne de Pharaon à Kouch et à Méroé. Puis le relais passe à la lointaine Éthiopie du royaume d'Aksum. L'empire du Ghana brille du 8e au 11e siècle avant de céder le pas à ceux du Mali et du Bénin. Cependant que les royaumes conquérants se multiplient au Dahomey, chez les Ashanti, rivalisant de splendeur avec les cités-États Yoruba. Le royaume de Kouch. C'est aux alentours de 900 avant notre ère, au nord de l'actuel Soudan, que des dynastes locaux profitent de l'affaiblissement de l'Égypte pour s'émanciper. Il faut toutefois attendre 730 avant Jésus-Christ pour que l'un d'entre eux, Pianki, établisse son autorité non seulement sur la haute Nubie, mais procède à des incursions jusque dans le delta, réunifiant à de trop brefs moments l'Égypte au profit du royaume de Kouch. Ses successeurs constituent la 25e dynastie, dite éthiopienne, avec les souverains kouchites de la fin du 8e et début du 7e siècle avant Jésus-Christ, Chabouka, Chabataka et Taharka. Ils reprennent à leur compte la grandeur de l'Égypte des 18e et 19e dynasties, multiplient les monuments jusqu'à ce que, chassés par les armées assyriennes en 664, les kouchites quittent Thèbes pour se replier en Haute-Nubie. Ils ont pour capitale Napata au pied du Djebel Barkal, mais, attaqués par les Égyptiens en 591 avant Jésus-Christ, ils se réfugient à Méroé, dans les steppes du Boutana, sur la rive droite du Nil. Méroé devient la capitale du royaume kouchite, mais disparaît au début du 4e siècle de notre ère, sous les assauts des Noubas de Kho, semble-t-il. Le royaume d'Aksum. Le royaume d'Aksum, du nom de sa capitale, situé dans la province du Tigré en Éthiopie, semble s'être constitué autour du second siècle de notre ère, après une naissance possible aux environs de 50 avant Jésus-Christ. C'est aux alentours de 325 de notre ère que le royaume d'Aksum, devenu un véritable empire qui met fin au royaume de Méroé, est converti au christianisme, ainsi que l'atteste le monnayage du roi Ezana, qui remplace les symboles païens du croissant et du disque lunaire par la croix. Après le 8e siècle, Aksum perd peu à peu sa prépondérance et doit finalement s'incliner au 12e siècle devant la suprématie de la dynastie des Agoué, originaire du Lasta, la province située au sud du Tigré.
N'oubliez pas, Aksum est la reine de Saba. Prénommée Makeda dans le chapitre 10 du Livre des Rois, dans l'Ancien Testament, la belle reine de Saba rencontre le roi Salomon. Elle est venue de son lointain royaume, Yémen ou Éthiopie, séduite par la réputation de sagesse du monarque. Selon la légende, elle pose au roi de multiples énigmes, dont il trouve toujours la solution. Tombée amoureuse, elle refuse de l'épouser, car il a déjà épouse et concubine, et elle ne veut en aucun cas le partager. Salomon use alors d'une ruse. Ayant fait promettre à la reine de Saba de ne rien prendre dans son palais, il lui offre un banquet au mets très épicé. La même nuit, assoiffée, la reine se lève et ne peut résister à la cruche d'eau laissée à dessein par le monarque. Salomon, qui la guette, lui rappelle alors sa promesse de ne rien lui refuser si jamais elle rompait son serment de ne rien prendre dans le palais. Il lui demande alors de partager sa couche. Elle en aura un fils, Ménélik, ancêtre officiel des Négus, les empereurs d'Éthiopie. Certains pensent aussi que le voyage de la reine au royaume d'Israël se serait accompagné de la conversion au judaïsme d'une partie de sa suite, à l'origine du groupe des Juifs éthiopiens, les Falasha.
L'Empire du Ghana, 8e, 11e siècle. L'Empire du Ghana est délimité par deux fleuves, le Niger à l'est et le Sénégal à l'ouest. Situé en Afrique occidentale, il va profondément marquer l'ensemble de la civilisation africaine en fédérant le peuple autour de son monarque. Ce dernier, véritable intermédiaire entre dieux et hommes, fonde sa puissance sur le contrôle des routes de l'or. C'est au 8e siècle, au moment même où l'islam se répand, que se constitue l'empire du Ghana au profit des Chichés, l'un des clans formant le peuple des Soninké. Leur capitale fut probablement installée sur le site de Kumbi Salé. Après avoir connu son extension maximale vers 990, l'empire du Ghana succombe sous les coups des berbères almoravides à la fin du 11e siècle. Les cités-états Yoruba du Nigeria. Les Yoruba forment encore de nos jours le groupe ethnique le plus important dans la partie sud-ouest du Nigeria, entre la côte des esclaves et le fleuve Niger. Ils sont également présents au Dahomey et au Togo. Le nom même de cette côte rappelle assez quel fut leur sort entre le XVIe et le XIXe siècle, sort auquel ils participèrent eux-mêmes dans le cadre de rivalités entre clans en vendant les vaincus. Pour se protéger de la traite et des razzias qu'elle motivait, les Yoruba ont mis au point un système original des cités-états fortifiés. Il y eut donc non un, mais plusieurs royaumes Yoruba à partir du milieu du XIIe siècle. La fondation mythique est le fait d'un ancêtre commun, Oduduwa, fils du dieu suprême qui structure le royaume Yoruba autour de deux sites sacrés, celui de la cité d'Ifé où siège le pouvoir sacerdotal et celui de la cité d'Oyo. À Ifé règne Loni, chef religieux incontesté. À Oyo gouverne Lalefin, descendant du héros Oduduwa, créateur de la terre. L'Empire du Mali et Tombouctou la Mystérieuse. L'Empire du Mali est connu par les relations que les pèlerins et voyageurs arabes Ibn Khaldoun, Ibn Battuta ou Léon l'Africain ont laissées. Mais c'est El Bekri qui le premier parle d'un état du Mali localisé de part et d'autre de la boucle du fleuve Niger. L'islam pénètre peu à peu le pays. Les conversions de chefs sont attestées dès la première moitié du XIe siècle. C'est le chef coutumier Soundiata Keïta qui fonde réellement l'Empire du Mali dans la première moitié du XIIIe siècle. Il aurait régné des environs de 1230 à ceux de 1255. Après avoir défait le roi de Soso en 1235, il s'empare de son royaume et de celui du Ghana et installe sa capitale à Niani. L'Empire du Mali atteint son apogée politique et territoriale au milieu du XIVe siècle, sous le règne de Kango Moussa qui repousse ses frontières de l'Atlantique aux marges sahariennes, contrôlant le nord du golfe de Guinée. Souverain pieux et éclairé, il fait en 1324 le pèlerinage à la Mecque, où il éblouit les contemporains par la profusion d'or dont il fait don, plusieurs tonnes selon les commentateurs de l'époque, mais aussi par ses aspirations intellectuelles élevées. Il ramène dans sa suite savants et théologiens, commentateurs de la Sunna, la tradition, qui sont à l'origine du rayonnement de Tombouctou. Au XVe siècle, à la suite d'un incessant affaiblissement dû à la multiplication des problèmes de succession, l'Empire du Mali succombe sous les coups conjoints du royaume Songhaï, des Touaregs et des Mossi.
Le saviez-vous? La ville aux 100 000 manuscrits. L'université de Sankore attirait au XVe siècle les étudiants de l'ensemble du monde musulman. Les docteurs de la loi, les oulémas, les exégètes du Coran et de la Sunna, la tradition qui relate les faits et gestes du prophète Mahomet, s'y côtoient. Leurs leçons sont précieusement copiées sur des matériaux divers, écorce d'arbres, parchemins de peau de mouton ou même papier. C'est ce savoir immense que l'on commence à redécouvrir. Certains documents datant du XIIIe siècle, en les traquant dans les dépôts et greniers de Tombouctou. L'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, en a déjà sauvé 15 000. Mais la quête est laborieuse, car les manuscrits sont éparpillés parmi les familles de la ville. Citons, pour le plus grand bonheur des historiens, des traités fondamentaux pour la connaissance de l'histoire de l'Afrique. Le Tahrik el-Soudan, l'histoire du Soudan, d'Abderrahman Essad, qui relate la succession des chefs de Tombouctou. Et le Tahrik el-Fetash, L'histoire du chercheur de Mahmoud Kati, une chronique du Soudan à l'époque médiévale.
Les Dogons. Fuyant la domination musulmane, les Dogons se réfugient sur les régions des hauts plateaux situées au sud de Tombouctou. Cela leur permet de conserver une société et surtout une religion originale fascinant les ethnologues du XXe siècle Germaine Dieterlen et Jean Rouche, qui révèlent la culture Dogon au monde après sa découverte entre les deux guerres par Martial Griaul. La société Dogon est strictement hiérarchisée en fonction des activités. À son sommet se trouve le groupe des cultivateurs, au plus bas, celui des forgerons. Entre les deux, toutes les activités indispensables à la vie des villages sont représentées. Tanneurs, vanniers, potiers, sculpteurs. Ces derniers jouent un rôle particulièrement important, surtout pour la confection de masques. Ces masques, les kanagas, sont portés par les danseurs, tous appartenant au groupe des cultivateurs lors de cérémonies funéraires ou pour créer les gestes du démiurge au moment de la création. Les masques de bois sculptés et peints sont parfois tellement imposants chez les Dogons que le danseur doit être accompagné d'un aide non seulement pour les enfiler, mais aussi pour se redresser au cours de la danse elle-même. L'Empire du Bénin. Il y eut deux royaumes du Bénin. Le premier, le plus modeste en superficie, a été fondé par les Edo à l'ouest du Niger, à peu près depuis le confluent du fleuve Niger et de la Bénoué jusqu'à la côte. Le second, constitué à partir du début du XIVe siècle, comprend un espace qui va de la frontière de l'ancien Dahomey à l'ouest jusqu'au fleuve Niger à l'est. La conquête britannique met fin à cet empire à la fin du XIXe siècle. Dès le XVe siècle, la dynastie d'origine Yoruba qui règne sur le Bénin entretient des relations diplomatiques avec le Portugal. Sur la côte des esclaves, les échanges commerciaux mettent les Occidentaux en contact avec l'Afrique intérieure. Des missionnaires débarquent, le catholicisme est toléré par les rois du Bénin jusque dans leur proche entourage. Toutefois, son influence ne perdure pas après l'effacement des Portugais devant les autres colonisateurs européens.
Le saviez-vous ? Loba en haut. Loba est un roi divin au Bénin, qui vit séparé du monde au sein de son palais où se presse la foule de ses serviteurs. À partir de son couronnement, il cesse d'être un homme comme les autres pour s'intégrer pleinement au principe divin de la royauté. Le mythe royal veut qu'il ne consomme plus rien, ni aliments, ni boissons, et qu'il soit immortel. Entouré de sa cour, Loba quitte peu le palais, qui forme à lui seul un véritable quartier de ville. À sa mort, le principe sacré passe dans le corps du nouvel Oba. Les rites funéraires veulent que la cour du roi défunt l'accompagne dans l'au-delà. Dignitaires et dames de parage sont enterrés vivants avec la dépouille du souverain. Le souverain du Bénin tire une bonne partie de sa puissance de ses relations avec les Occidentaux. Il organise en effet à son profit la traite des esclaves et va faire chercher à l'intérieur de l'Afrique ces derniers pour les revendre aux Européens sur les côtes, n'hésitant pas à mettre en vente ses propres sujets. Il obtient en échange les armes qui lui permettent de maintenir sa puissance militaire sur ses voisins. Le lien entre la monarchie et la traite au Bénin est si puissant qu'après l'abolition de l'esclavage et la fin de la guerre de sécession aux États-Unis, il faut à peine 30 ans pour que le dernier Oba soit vaincu par les Britanniques.
Le royaume de Dahomey. Le royaume de Dahomey est né dans la partie la plus méridionale de l'actuelle République du Bénin, non loin du golfe du même nom. À l'origine, il s'agit en réalité de trois royaumes et non d'un seul, ceux d'Allada, de Porto Novo et de Dahomey. Nous n'avons, à la suite de la colonisation française, conservé que le nom du dernier, Dahomey, pour désigner l'ensemble. Le mythe fait remonter la dynastie régnante aux amours d'une princesse et d'un léopard. Le royaume du Dahomey impose son hégémonie à ceux d'Allada et de Porto Novo au long du XVIIe siècle, connaît son apogée au XVIIIe siècle et passe sous l'autorité française à la fin du XIXe siècle. Du nom de sa capitale, Abomey, le royaume fonde sa prospérité sur la traite des esclaves devenue à la fin du XVIIIe siècle monopole royal sous le règne de Kpengla. Le roi dispose d'une importante armée qu'il envoie tous les ans en campagne pour s'approvisionner en esclaves, qu'il vend sur la côte, dans le port de Ouida, par l'intermédiaire d'un haut fonctionnaire, le Yovogan, le chef des Blancs. Au début du XIXe siècle, le commerce des esclaves se restreint et l'un des cousins du roi Adandoza confisque le pouvoir à son profit. Sous le nom royal de Gezo, il inaugure une ère de prospérité et de puissance pour le royaume du Dahomey. Au cours des coutumes, le roi se doit de montrer sa puissance et sa magnificence en organisant le défilé des richesses du roi. Il s'agit de sortir des magasins royaux tout ce que le souverain possède, aussi bien en esclaves, en têtes de bétail, en objets, en coris, pour en faire l'étalage devant le peuple et en consommer une partie. Plus le roi est puissant, plus il doit le montrer par une part importante de richesses consommées au cours des coutumes.
Le saviez-vous? Les Amazones du Dahomey. Elles ont beaucoup frappé l'imagination, en raison non seulement de leur existence mythique dans l'Antiquité classique, mais aussi par leur résistance acharnée à la colonisation française. Ce corps de soldats féminins a été institué au début du XVIIIe siècle, par le roi Agadja. Mais c'est à ses successeurs qu'il revient d'en faire une armée permanente et organisée, et l'essentiel de la garde royale. Elles forment un corps d'élite, utilisé aussi bien pour les combats de conquête que pour la garde honorifique d'un haut personnage. En 1851, le roi Gezo conduit une armée de plusieurs milliers d'Amazones à la conquête de la forteresse d'Egba. Seuls un millier d'entre elles survivent à un combat acharné et inégal. Les Amazones, faisant preuve d'un rare courage, montent à l'assaut armés de lances et d'épées et sont repoussés à coups de canon. La dernière grande bataille à laquelle participent les Amazones du Dahomey a lieu en 1892, quand le roi Béhanzin les incorpore à son armée pour tenter en vain de repousser les envahisseurs français.
Les Ashanti, le royaume de l'or. Le royaume Ashanti impose son hégémonie au XVIIIe et au XIXe siècle dans les régions du centre de l'actuelle République du Ghana. Sa puissance prend fin en 1895 avec la conquête britannique. Il semble que le royaume Ashanti soit une extension, à la fin du XVIIe siècle, du royaume de Denkyera, localisé dans la partie sud du Ghana. Il s'organise sous le règne d'Osei Tutu, qui fonde Kumasi, la capitale. Le symbole même du royaume Ashanti est le trône d'or du souverain sur lequel il ne s'assoit jamais. Ce trône est à lui seul l'esprit de l'ensemble des Ashanti. Selon la légende, il a été donné par les dieux au roi Osei Tutu au cours d'un orage où le ciel s'est entrouvert pour le laisser passer. Le pays des Ashanti débouche sur la côte de l'or et la richesse du royaume reposait en partie sur les échanges effectués sur la côte par l'intermédiaire des populations Fanti.